chères cliniciennes et cliniciens, merci d'avoir cliqué sur le podcast Clic Physio. Cette série de 10 balado-diffusions vous permettra de vous plonger tête première dans l'univers de la téléréadaptation avec divers acteurs influents du milieu. Laissez-vous charmer par cette modalité d'intervention novatrice qui nous permet de tisser un service sécuritaire, inclusif et de qualité par l'entremise de la toile du web. À un clic de nos patients, vous découvrirez l'importance de ce juste compromis qu'offre la téléréadaptation. Bienvenue sur le podcast Clic Physio, une initiative étudiante dans le cadre d'un projet de maîtrise en physiothérapie. Aujourd'hui, on s'en va à la rencontre de M. Mourad Garbi, physiothérapeute diplômé de l'Université de Sherbrooke. M. Garbi s'implique depuis 2008 dans l'enseignement et la conception de matériel pédagogique au programme de physiothérapie de l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Ses intérêts cliniques convergent vers l'évaluation et le traitement des atteintes du rachis et de l'épaule selon une approche multimodale réconciliant la biomécanique et le modèle biopsychosocial. Toujours à l'avant-garde, il désire contribuer à l'essor des formations en ligne et des formations hybrides à l'intention des professionnels de la physiothérapie du Québec. Or, c'est dans cette optique qu'il vient nous partager son expertise entourant l'utilisation de la téléréadaptation et du téléenseignement. Bon épisode à tous! Bonjour Mourad.
Bonjour Julien.
Donc, un gros merci Mourad de prendre le temps de venir discuter avec nous sur le podcast. Puis pour les gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir te croiser sur le plan professionnel ou dans une formation ou même avoir été sur les bancs d'école avec toi, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter, s'il te plaît?
Ben oui, certainement. Moi, c'est ça, je suis physiothérapeute, gradué de l'Université de Sherbrooke. Ça fait presque 9 ans. J'ai travaillé essentiellement en pratique privée là, depuis le début là, de ma pratique professionnelle. J'ai une clientèle variée. Je fais des problématiques musculo-squelettiques, la réadaptation vestibulaire, un peu de suivi de commotion cérébrale. Puis quand j'étais à l'université, j'étais assistant de recherche. Puis éventuellement, j'ai commencé à enseigner assez tôt. Ça fait 8 ans que j'enseigne à l'université. Au début, à temps très, très partiel. Puis maintenant, ça représente à peu près le tiers de mon occupation professionnelle, je dirais. Fait que j'enseigne dans différents cours, là, mais en lien avec les thématiques que j'ai présentées précédemment.
Excellent, ça. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais aller voir avec toi, c'est un peu comment le contact a été fait au premier abord avec l'utilisation de la téléadaptation ou les télésuivis avec tes patients ou tout simplement la télécommunication de manière générale.
Oui, mais dans le fond, c'est ça. Moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai commencé à faire du téléenseignement il y a quand même un bon bout. Là, on avait des formations asynchrones avec un collègue là, qu'on donnait. Puis, quand on a fait le saut pour la téléréadaptation, ça s'est fait un peu de force comme tout le monde là, avec l'arrivée de la COVID. Donc, l'ordre professionnel le recommandait là, de limiter les suivis en présentiel. Donc, à la clinique, là, on a adopté un logiciel qui s'appelait Doxy.me. C'est avec ça que j'ai travaillé là, de manière ponctuelle en téléréadaptation depuis le printemps 2020.
Depuis le printemps 2020, on a réussi peut-être à dompter davantage la bête, à comprendre un peu plus peut-être les avantages, inconvénients. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, ce que tu as pu refléter de ta pratique à date?
C'est sûr que c'est vraiment super pratique à partir du moment où il y a une certaine distance physique là, pour les patients. Des fois, il y a des patients que le temps de déplacement il est significatif, ça leur prend 30-45 minutes pour venir à la clinique. Puis des fois, la nature du suivi fait que ça peut être fait à distance, là, surtout si les gens sont habiles avec la technologie. Fait que je pense qu'il y a un gros plus-value pour ça. Puis moi aussi, dans ma pratique personnelle, j'ai beaucoup d'étudiants qui éventuellement, bon, ils vont dans d'autres villes où ils étudient ici, puis ils vont travailler ailleurs. Et des fois, ces gens-là, ils veulent maintenir un suivi ou ils n'ont pas tout à fait complété la réadaptation, puis ils sont sur la fin. Puis là, ben, ça peut être pratique de garder le lien avec le clinicien, même si, encore une fois, il y a une certaine distance physique qui s'installe.
C'est certain qu'on a été un peu bombardé avec l'utilisation d'une modalité d'intervention que peut-être peu étaient familiers. T'avais-tu certaines appréhensions ou peut-être des mythes ou des choses que tu as réussi à peut-être éclaircir avec l'utilisation ou la découverte de cette modalité-là?
Je pense que l'aspect informatique, là, il s'est beaucoup amélioré rapidement de facto avec la pandémie. Les logiciels, au début, étaient un peu moins stables. Il y avait plus de drops. Je pense que les gens avaient peut-être des moins bonnes connexions à Internet. Puis là, ben, il y a eu comme une évolution forcée. Mais je dirais qu'aujourd'hui, là, ça va quand même passablement bien. Puis, bon, on est encore soumis aux aléas de la technologie, mais ça devient un irritant qui est plus mineur, là, versus au début où ça pouvait être quand même assez dérangeant. Là. Puis, je dirais que le profil, des fois, des patients qui sont un petit peu plus âgés, il est devenu pas mal plus techno. Tu sais, si je recule d'il y a 5 ans, c'était pas mal moins le cas. Mais maintenant, j'ai des patients qui ont 70 ans, 75 ans, et qui ont fait de la téléréadaptation, ça a quand même bien été. Je pense pas que c'était la majorité de ce groupe de patients-là, mais règle générale, là, on est capable de faire des choses qui sont bien.
Puis, avec l'utilisation de la technologie, la téléadaptation, plusieurs domaines tels que musculosquelettique, ça prête quand même assez bien à cette pratique-là. On n'est pas dans la discussion de savoir si c'est efficace ou pas. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir un peu avec toi, c'est dans le domaine plutôt peut-être musculosquelettique ou si peut-être même que tu en fais en vestibulaire, voir un peu comment est-ce que tu approches un peu l'arrivée d'une première rencontre avec un patient.
En règle générale, moi, le logiciel que j'utilise, c'est ça, il y a comme une salle d'attente électronique, fait que ça va assez bien pour ça. Fait que le patient appelle à la clinique, ils vont séduire un rendez-vous, ça va être inscrit dans l'horaire comme quoi c'est une rencontre de téléadaptation. Moi, je vais leur envoyer un lien par courriel, ils me confirment qu'ils l'ont reçu. Puis après ça, là, il n'y a pas de logiciel à télécharger, là, c'est tout comme basé sur le web. Je pense qu'il faut avoir comme déjà une petite idée de ce que tu t'apprêtes à évaluer. Pourquoi? Parce qu'il y a des patients qu'il faut définitivement réorienter pour dire, bon, ben il faut qu'on se voit en clinique. C'est pas quelque chose qui est plus prompt à être vu à distance. À l'opposé, quand c'est, par exemple, des progressions d'exercice, là, ça va super bien.
Puis, on sait que la plupart des physiothérapeutes aiment bien mettre les mains sur les patients, de toucher, sentir un peu ce qui se passe au niveau des différentes pathologies qu'on rencontre. C'est sûr et certain qu'il y a différents tests qu'on peut faire, mais comment on réussit un peu à évaluer un patient sans réussir à utiliser peut-être l'outil que plusieurs primes qui sont les mains pour être capable d'évaluer ou de tirer un portrait global de la situation qui se présente devant nous?
Il faut faire un subjectif et un historique qui est bien détaillé. C'est toujours vrai, mais c'est encore plus vrai là, à distance. Je pense qu'avec les tests fonctionnels, on est capable de faire une bonne partie du chemin. C'est sûr que quand on recherche des atteintes structurelles spécifiques, c'est plus dur quand tu le fais à distance. Mais pour beaucoup de problématiques qui ont une approche de traitement avec un tronc commun, si on veut, des fois, on peut bien débuter la réadaptation à distance, faire une rencontre ou deux en présence, puis après ça, poursuivre à distance. Il faut que tu aies un plan d'évaluation qui est concret dans ta tête, puis c'est pas la même structure que ce que tu fais en clinique. Fait que c'est pas juste de dire, on va suivre le formulaire, puis on va dire au patient, ben prends ton coude, tire dans cette direction-là, ça fait-tu mal? T'sais. Ça, je pense que d'essayer d'enseigner les tests aux patients, de mon côté, ça n'a pas super bien fonctionné. Mais aussi, des fois, j'ai trouvé ça intéressant. Ça dépend si la personne a une station de travail qui est fixe, un portable ou une tablette. Mais avec les tablettes, c'est bien parce que c'est facile de la repositionner, de voir le patient d'un peu plus loin puis d'avoir une meilleure idée de comment il bouge. Avec un ordinateur fixe ou avec une webcam qui est fixe, des fois, c'est un petit peu plus difficile.
Puis je sais qu'il y a plusieurs guides pratiques qui existent. Il y en a plusieurs aussi cliniques qui envoient un peu un mémo, un rappel du procédé, un peu comment ils vont fonctionner pour la rencontre. Peut-être de ton côté, peut-être les atouts, les éléments qui t'ont permis de vivre une expérience positive autant pour toi que pour le patient, que peut-être un rappel ou un éveil par rapport à ça pour les gens qui hésitent encore à l'utiliser ou peut-être pourraient bonifier leur pratique actuelle.
Bien, je pense que les patients qui sont intéressés à faire de la téléréadaptation, généralement, c'est eux qui vont demander le service. C'est pas quelque chose que moi, j'offre à la base, à moins qu'on arrive dans la situation où on a besoin de faire un suivi. Puis, comme je te dis, il y a un élément de distance physique là, qui s'est installé. Mais je pense que les gens qui ont une attente d'avoir un certain nombre de mobilisations, manipulations, techniques physiques, ben, ils vont pas graviter vers la téléréadaptation. Fait que déjà là, c'est des profils de patients qui sont peut-être un petit peu plus intéressés par l'approche uniquement par exercice. Puis en ce sens-là, tant que les attentes puis ce qui est offert, c'est concordant, généralement, les gens sont bien satisfaits. Puis et même pour eux, c'est beaucoup plus convivial. Tu sais, ils se préparent 5 minutes avant le rendez-vous. Ils se mettent leur paire de shorts, ils mettent une camisole, bon, dépendamment de ce qu'on évalue. Puis c'est généralement un succès pour ça.
Sinon, peut-être d'un autre aspect, de pouvoir avoir un regard peut-être dans le milieu où est-ce que le client ou le patient évolue dans son quotidien, est-ce que tu trouves que peut-être ça peut être une plus-value de cette utilisation-là pour peut-être peaufiner, améliorer l'application du plan d'exercice à domicile?
Ben, je pense que c'est intéressant parce que des fois, les gens peuvent vous montrer les équipements qu'ils ont disponibles chez eux, poids, halter, la manière dont c'est fait. Mais de voir l'environnement comme tel, comme moi, je fais pas beaucoup de maintien à domicile, maintien de l'autonomie, prévention des chutes, ce genre de choses-là, c'est un peu moins pertinent pour moi, mais je suis certain que pour d'autres clientèles, ça l'est grandement. Mais oui, c'est sûr, des fois, les gens vont dire, ben, regarde, moi, j'ai ça, 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 OK, ben on va pouvoir s'arranger en faisant tels exercices avec ce que vous avez déjà à la maison sans que vous ayez besoin d'acquérir du nouvel équipement.
Avec le temps, c'est sûr que des fois, il y a un engouement pour l'instant présent. Donc, on sait que la pandémie a forcé l'utilisation des télésuivis. Mais de voir après ça, dans le futur, peut-être qu'on va être rencontré à avoir peut-être d'autres interventions puis qu'on doit être obligé de peut-être varier nos différentes modalités d'intervention. Par rapport à toi, peut-être à court, moyen, long terme, l'utilisation de la téléadaptation, qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir en faire? Est-ce que tu crois garder un, peut-être une approche plus hybride ou seulement selon les gens, leurs préférences, s'ils veulent faire un suivi en télésuivi ou tout simplement peut-être la délaisser avec le temps pour retourner davantage en clinique. J'aimerais ça un peu voir ta perspective d'ensemble par rapport à tout ça.
Ben, moi, je pense pas que ça va être une approche qui va se mourir, là. Je pense que ça va demeurer dans les pratiques de la plupart des thérapeutes, mais je pense que ça va être une petite fraction à part pour un sous-groupe qui va décider d'en faire une grosse facette de leur pratique. Mais, tu sais, moi, je vois ça entre 1 et 5 % de mes suivis, là. Il y a effectivement plus trié sur le volet. Je pense que aussi, à partir d'un certain point pour des professionnels qui ont acquis une certaine expertise, ça peut être intéressant pour des deuxièmes opinions, tu sais, de donner une deuxième opinion là à un patient en faisant un bon historique, en consultant les résultats d'imagerie, dossier antérieur, puis là de dire bon, à travers ce type de triage-là, oui, peut-être qu'un deuxième type de suivi pourrait être pertinent ou non. Des fois, ça, c'est des choses qu'on a eu à faire à la clinique, puis les gens ont généralement bien apprécié, tu sais, avant d'enclencher un suivi plus exhaustif ou plus soutenu dans le temps.
Avec ton chapeau d'enseignant, de voir un peu cet usage-là devenu des télésuivis, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être important peut-être de bonifier ou modifier les programmes actuels pour pouvoir peut-être transmettre l'usage de cette technique-là ou de peaufiner peut-être leur approche par rapport au gros boom qu'il y a eu avec la COVID-19 par rapport à l'utilité de la téléadaptation?
En ce moment, là, il y a eu quand même beaucoup d'adaptations dans les derniers temps, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a on fait une petite partie du subjectif de l'historique, une petite partie de l'examen physique, on fait de la prescription d'exercice à distance, mais c'est un peu comme fractionner à travers plusieurs cours. La question, c'est est-ce que c'est plus efficace de le fractionner comme ça ou de le regrouper sous une unité? Moi, je sais pas, moi, télé-air, là, 304, là, je pense que c'est mieux de le garder fractionné comme ça. Puis, je pense que ça permet de montrer à travers différentes facettes un peu, là. Fait que la téléadaptation en gériatrie, c'est pas la même chose qu'en musculosquelettique ou qu'en PED. Fait que je pense que c'est bien de le garder comme ça. Puis, peut-être que ça pourrait être éventuellement quelque chose pour lequel il y a comme un continuum puis que les profs, on se rend compte puis qu'on en discute ensemble. Mais, un peu comme tu disais, ça a été implanté rapidement. On s'est ajusté au programme là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a encore de l'amélioration qui est possible.
Puis, on est vraiment dans un milieu peut-être davantage où la clientèle est plus sportive. L'utilisation des télésuivis ou téléadaptations par rapport à des blessures que les athlètes peuvent avoir eues sur le terrain. Est-ce que tu as eu la chance de voir un peu comment cette clientèle-là réagit par rapport à cette utilité-là? Est-ce qu'ils sont davantage à vouloir avoir du clé en main ou est-ce que le physiothérapeute les touche davantage? Ou ils ont tendance à vouloir dire « mais moi, je m'en vais en telle compétition, j'aimerais ça faire un petit check-up rapide avec Mourad par rapport à tout ça ». C'est quoi un peu la pulsation du terrain qui en ressort de tout ça?
Ben, tu sais, quand on arrive à la fin puis qu'on est rendu dans de la plio, dans des exercices plus fonctionnels, dans des tests d'agilité, ce genre de choses-là, habituellement, que ce soit en clinique ou à distance, si la personne est minimum techno, habituellement, je pense que ça doit être équivalent ou du moins non inférieur pour utiliser des termes de recherche, là. Mais c'est sûr que je pense que la préférence des patients, ça demeure de venir en clinique. Mais tu sais, comme on le sait, plus que le temps depuis la lésion initiale s'est écoulé, moins la pertinence de l'approche manuelle, elle est grande. Mais des fois, je pense que tu sais, dans la relation de confiance, puis dans le mental pour les sportifs, là, en personne, ça demeure supérieur. Tu sais, on est quand même chanceux parce que ça, à Sherbrooke, bon, il y a une chaire de téléadaptation qui précède de longtemps là, la COVID. Fait qu'on était quand même sensibilisés à cette approche-là.
Une des dernières questions que j'aimerais ça aller voir de ton côté, c'est par rapport à la relation d'aide. Comment est-ce qu'on peut tisser un lien thérapeutique étroit malgré le fait qu'il y a un écran ou du moins un intermédiaire qui n'est pas le physique entre les deux personnes? Est-ce que tu trouves que ça a changé peut-être ton approche dans ton non-verbal ou dans ta manière de pouvoir peut-être t'exprimer, étant donné que peut-être le gestuel ou la manière de peut-être regarder la personne va changer selon peut-être l'angulation de l'écran ou quelle technologie les gens ont, que ce soit un portable, webcam ou etc.?
Ouais, je pense bien que tu as raison là-dessus. Il y a quand même une petite différence, en tout cas au moins au niveau de l'expression du visage. Tu sais, t'es pas exactement face à face. T'as comme juste une image 2D, c'est un peu moins 3D. Je pense que tu sais, d'essayer un peu comme dans n'importe quelle communication, de maintenir le contact visuel, essayer d'avoir des signes non verbaux là, d'écoute, ça demeure pertinent. Mais quand on commence à se reculer, quand la qualité de la caméra est moins bonne, c'est sûr que ça l'affecte un peu. Puis je sais que pour avoir déjà regardé un peu la littérature en télé-enseignement, à partir du moment où tu enlèves le vidéo, l'engagement il est plus faible. Mais de là à dire que ça va affecter très négativement la relation thérapeutique, je ne croirais pas, parce que tu sais, les gens ils peuvent quand même te considérer comme compétent, empathique, agréable. C'est juste que c'est quand même une petite touche moins naturelle, mais c'est moins pire parce que les gens ont eu beaucoup d'exposition. Tu sais, il y a un an, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait un Noël avec Teams ou avec Skype ou avec Zoom, là, fait que les gens sont moins réfractaires à ça, mais ça reste que je pense que l'interaction en live, c'est quand même mieux.
définitivement que de faire un face-à-face va changer du moins l'ambiance de notre relation, sachant un peu peut-être les signes qui sont peut-être moins avant-coureurs que juste le visage, de la manière qu'on s'exprime, de voir peut-être ce que les jambes croisées, le positionnement, voir peut-être des choses que le 2D viennent peut-être altérer notre vision par rapport à des choses qu'on pourrait peut-être déceler en le voyant de vis-à-vis. Je suis du même avis.
Ben oui, et puis moi, je me rappelle, j'ai déjà eu un superviseur de stage, il disait, on en apprend beaucoup entre le moment où le patient, il se lève de la chaise dans la salle d'attente, puis il arrive, puis il s'assoit dans ton bureau, puis peut-être que ça, avec la téléradaptation, on l'a un peu moins, mais c'est sûr qu'on peut regarder la démarche, la posture à distance, mais c'est quand même, comme on dit, un peu moins naturel que l'autre contexte présenté.
Comme à chaque fois, quand on arrive à la fin du podcast, je laisse l'invité du jour à prendre le temps de peut-être créer une ouverture, peut-être faire un peu un sommaire de ce qui a été dit aujourd'hui pour tout simplement peut-être laisser un message aux différents cliniciens qui nous écoutent aujourd'hui. Puis, je veux dire, Mourad, un gros merci d'avoir pris le temps de venir sur notre podcast aujourd'hui pour discuter avec nous. Donc, le mot de la fin, le micro est à toi, mon cher.
Bien, ça me fait grandement plaisir, Julien. Fait que pour faire un sommaire un peu des points qu'on a ressortis, ma perspective, c'est que la téléréadaptation, c'est quand même quelque chose qui est là pour rester. Je pense que ça va être une petite fraction des traitements de la majorité des cliniciens. Je pense que l'utilité, elle est variable en fonction de la présentation du patient. Je pense qu'en subaigu puis en chronique, c'est plus pertinent qu'en aigu. Puis je pense que naturellement, les patients qui vont avoir un intérêt pour la téléréadaptation vont graviter vers ce type de service-là. Puis ceux qui veulent une approche très hands-on, ben c'est pas quelque chose vers lequel ils vont se diriger. Je pense que ça vaut la peine d'avoir une petite expertise là-dessus. Puis le principal avantage que moi, j'y vois, c'est l'érosion là, des barrières de la distance. Fait que le fait de pouvoir donner des consultations à des gens qui sont dans d'autres villes, qui ont changé de coin, ça, je pense que ça demeure le principal avantage donc, pour les cliniciens. Puis, bon, tu sais, là, moi, je parle de ça Sherbrooke, Montréal, mais tu sais, il y a des gens qui travaillent dans des régions pas mal plus éloignées que ça, là. Fait que ça, c'est encore plus vrai dans ce contexte-là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été bien plaisant.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode réalisé par Click Physio, un podcast où vous faites la rencontre de la téléréadaptation par l'entremise de divers acteurs du milieu de la physiothérapie. À un clic de vos patients, apprenez à apprécier la juste valeur de la téléréadaptation. Bref, si vous avez aimé le tout, n'hésitez pas à partager notre contenu sur vos diverses plateformes et de commenter, aimer nos différentes publications. Nous vous invitons également à vous joindre gratuitement à notre forum de discussion membre sur notre site web Click Physio pour en apprendre davantage sur la téléréadaptation. Au plaisir de vous compter parmi nous.